L'argent et les réformes seront-ils au rendez-vous? C'est tout l'enjeu du Ségur de la santé qui démarre aujourd'hui et qui devrait livrer ses conclusions au plus tard, mi-juillet. Cette grande concertation qui tire son nom donc de l'adresse du ministère de la Santé veut réunir autour de la table, même virtuellement en visioconférence, tous les acteurs de la santé, EHPAD compris. L'initiative répond à un engagement d'Emmanuel Macron au plus fort de l'épidémie de Covid-19. Elle sera animée par l'ancienne dirigeante de la CFDT, Nicole Notat, mais celui qui est réellement aux manettes, c'est Olivier Véran, le ministre de la Santé, Rosalie Lafarge.
Dans les couloirs de l'Élysée, on ne parle pas du Ségur de la Santé, mais du plan Véran. C'est lui la pièce maîtresse du dispositif et c'est une opportunité pour ce jeune ministre, glisse un proche du président, l'opportunité de porter une transformation ambitieuse du système de santé. Il s'est révélé dans cette crise, Olivier Véran, reconnaît l'entourage d'Emmanuel Macron. Alors que la défiance envers nos politiques grandit chaque jour un peu plus, il semble échapper aux tous menteurs et tous pourris, et son passé de neurologue lui permet d'avoir une certaine légitimité, une crédibilité auprès du monde médical, assure-t-on encore au Véran est un médecin, il pense comme les médecins et c'est un véritable atout, souligne aussi un haut placé à l'Assemblée. Et puis Emmanuel Macron l'aime beaucoup, paraît-il, il lui fait profondément confiance, ce qui permet au président d'être à la fois très engagé dans le processus, selon un de ses collaborateurs, mais aussi de déléguer sereinement à son ministre. L'entourage professionnel d'Olivier Véran assure qu'il est prêt à prendre le taureau par les cornes, il ne fuira pas les sujets, salaire, temps de travail, public-privé, il veut trouver des solutions et il n'a pas attendu le coronavirus pour avoir des idées pour l'avenir de l'hôpital, appuie une de ses proches. L'ancien député de l'Isère l'a dit, il veut aller vite, le calendrier est serré, les conclusions de ce Ségur de la Santé lui sont demandées pour mi-juillet. Olivier Véran est conscient de l'immensité de la tâche et de l'urgence, insiste son cabinet. Il sait aussi que les attentes sont très fortes de la part du monde médical. Sa volonté d'être à la hauteur l'est au moins tout autant, rétorque un conseiller.
Ce Ségur de la Santé, un énième rendez-vous avec les pouvoirs publics qui laisse les principaux acteurs du système dubitatif, Tara Schlegel.
Cette concertation, annoncée par voie de presse la semaine dernière dans le JDD, laisse déjà un goût amer aux syndicats et aux collectifs qui affirment ne pas avoir été contactés directement. Tout au plus ont-ils reçu un lien pour une visioconférence qu'ils interprètent comme l'écoute de la parole du ministre. Très loin d'une vraie négociation donc. Sur le fond, le désaccord aussi est total. Olivier Véran parle d'un assouplissement du cadre de travail, ce que les syndicats comme Sud ou la CGT interprètent comme la possibilité d'un très sarkozyste travailler plus pour gagner plus. Or, comme le notent tous les professionnels dans les hôpitaux, aides-soignants, infirmiers, ambulanciers, brancardiers, tous sont obligés très régulièrement d'effectuer déjà des heures supplémentaires qui, en général, ne sont pas payées. Quant à l'augmentation des salaires envisagée par le gouvernement, c'est la revendication majeure portée par l'hôpital public depuis un an. Jusqu'à présent, elle a été transformée en primes et médailles que rejettent les personnels. La défiance est donc grande. Sud Santé APHP lance un préavis de grève pour aujourd'hui, lundi. La CGT organise demain, les mardis, de la colère dans les hôpitaux. Collectifs et syndiqués, tous prédisent que ce plan, qui intervient quelques mois seulement après un projet de loi qui se voulait déjà décisif, ce plan ne sera pas à la hauteur. Reste au gouvernement à les détromper.
Plan hôpital, quel prix pour la santé? C'est la question que posera Emmanuel Laurentin ce soir à ses invités, économistes, sociologues et philosophes. Ce sera dans le temps du débat à partir de 18h15 sur France Culture.
En attendant, il est 7h05 sur France Culture et c'est la suite du journal de Catherine Dutu. Un point fait déjà consensus avant le Ségur de la santé, c'est la nécessaire hausse des salaires des infirmiers et des infirmières.
Mal payés en France par rapport à la moyenne européenne, au cœur d'une crise des vocations. Pour retenir cette profession, l'Espagne a fait le choix de mieux payer ses infirmières. Mais celles qui sont encore applaudies tous les soirs à 20h de Barcelone à Séville se plaignent de la précarité des contrats et du faible nombre de soignants par habitant, Mathieu de Taillac.
Selon l'OCDE, les infirmières d'Espagne seraient les mieux payées d'Europe, celles qui toucheraient le salaire le plus haut en comparaison du salaire moyen du pays. Sauf que le salaire moyen est plus bas en Espagne qu'ailleurs, et que seules ont été prises en compte les infirmières en CDI, pas la grosse moitié qui survit de CDD en intérim. María José García est la porte-parole du syndicat d'infirmières, SATSE.
Une infirmière, quand elle commence à travailler, elle peut gagner autour de 1200-1300 euros. Juste avant de prendre leur retraite, les infirmières gagnent en moyenne autour de 2000 euros, pour celles qui travaillent dans le système public de santé.
Les infirmières espagnoles se plaignent de la précarité et du manque d'effectifs. Sur les 28 membres de l'Union européenne, l'Espagne est à la 24e place en ce qui concerne le nombre d'infirmières par habitant. María José García.
à la qualité.
D'un côté, ça affecte la qualité et la sécurité des soins que reçoivent les patients. Mais en plus, cette surcharge de travail fait qu'en Espagne, selon un sondage auprès des professionnels, plus de 80% se déclarent en état de stress.
Les syndicats aimeraient fixer un maximum légal de patients par infirmière pour que les applaudissements unanimes se traduisent en mesures concrètes pour améliorer le système de santé espagnol.
Mathieu de Taillac à Madrid pour France Culture. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe doit lever aujourd'hui l'état d'urgence encore en place dans les dernières régions de l'archipel où il est encore en vigueur, dont Tokyo. L'occasion de relancer la troisième économie du monde alors que le nombre de nouveaux cas de Covid-19 ne cesse de ralentir dans le pays. 17 000 cas recensés seulement au Japon depuis janvier dernier et 850 morts. La pandémie qui a fait au total 343 205 morts depuis l'apparition du virus en décembre en Chine. Les États-Unis, le pays le plus touché en valeur absolue avec près de 98 000 décès, suit le Royaume-Uni avec près de 37 000 morts. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a affiché tout son soutien hier à son conseiller spécial Dominic Cummings malgré ses déplacements à plus de 400 km de Londres alors que lui et sa femme avaient des symptômes du coronavirus. Malgré les critiques et les appels à la démission de Cummings jusqu'au sein de son camp conservateur, Boris Johnson n'a pas cédé aux pressions. On y revient dans la revue de presse internationale de Camille Manière après le journal de 7h30. Une journée historique hier en Israël. Pour la première fois, un premier ministre en exercice a comparu devant un tribunal, Benjamin Netanyahou, inculpé pour fraude, abus de confiance et corruption dans 3 affaires à Jérusalem. L'audience a à peine duré 1 heure, essentiellement technique. Le fond n'a pas été abordé, mais cette journée historique, marquée par des manifestations des pros et des anti-Netanyahou, a confirmé que ce dernier fracturait la société israélienne. Frédéric Mettezo.
Les Netanyahou n'hésitent pas à manier les symboles les plus forts. Sur Twitter, le fils Yair compare son père au capitaine Dreyfus. Et avant de se rendre au tribunal, Benjamin Netanyahou rend visite à des rescapés de la Shoah. En Israël, on aime ou on déteste Netanyahou. Ses adorateurs le surnomment roi d'Israël.
Je suis très inquiet pour la démocratie israélienne. Bibi est Premier ministre, mais malheureusement le tribunal a plus de pouvoir. Ils ne sont pas contre Bibi. Ils sont contre nous.
Pour ceux qui ne l'aiment pas, le souverain est une menace.
Bibi, c'est comme le cancer d'Israël. Vraiment. Qui casse tout le pays. Il est un criminel. Il corrompt tout le pays. Ceux qui pensent que Bibi, c'est le roi d'Israël. On a besoin d'un pays normal.
Avant l'audience, l'accusé ne cherche pas à réconcilier. Au contraire, il adopte une défense de rupture.
Les citoyens israéliens, chers concitoyens, vous êtes beaucoup plus intelligents que ce que ce système pense de nous. Et toute cette procédure n'a qu'une seule vocation, c'est de renverser un Premier ministre du camp de la droite.
Le procès de Benjamin Netanyahou pourrait durer 3 ans.
Et c'est un article justement, le procès de Benjamin Netanyahou qui devrait durer 3 ans, un article et un entretien à retrouver sur franceculture.fr. La prochaine audience du procès Netanyahou aura lieu le 19 juillet prochain. Le Premier ministre israélien est dispensé d'y assister. Des milliers de personnes ont envahi hier les rues de Hong Kong pour dénoncer un projet de loi chinois liberticide. Selon elle, le dépôt d'un texte au Parlement chinois visant à interdire la trahison, la sécession, la sédition et la subversion à Hong Kong a de nouveau mis le feu aux poudres, entraînant une riposte violente de la police anti-émeute, des canons à Hong contre des barricades, des scènes qui n'avaient plus été vues depuis des mois dans l'ancienne colonie britannique. Il était entré sous la coupole en avril 2008. L'artiste et académicien Jean-Loup Dabadie est mort hier à Paris à l'âge de 81 ans. Plus de 60 ans de carrière dans tous les domaines artistiques, de la littérature au théâtre, en passant par le cinéma et bien sûr la chanson. 60 ans de carrière que nous retrace Stéphane Capron.
Jean-Loup Dabadie a baigné dans les mots tout petit. Son père, Marcel, était le parolier des frères Jacques et de Maurice Chevalier. À 19 ans, il publie son premier roman et commence à écrire des chansons pour Serge Reggiani. Puis viennent les grands tubes de Michel Polnareff. Tout le monde s'arrache la plume de Jean-Loup Dabadie pour sa tendresse et sa mélancolie. Avec Claude Sautet, il signe les scénarios des plus grands films français des années 70 de César et Rosalie, en passant par Vincent François, Paul et les autres et Les choses de la vie. Jean-Loup Dabadie était modeste et s'effaçait toujours derrière les artistes.
Les interprètes sont les souffleurs des auteurs, sans le savoir, sans le vouloir la plupart du temps. C'est-à-dire que vous vous creusez l'âme, quelquefois sans succès, en cherchant un sujet de film, de pièce, de sketch, de chanson. Moi, je me rappelle quand j'écrivais des films pour Claude Sautet, où on avait Romy Schneider, les scènes, avant le dialogue même, les scènes pour Romy, je m'imprégnais de sa personne, de ses silences, de sa voix, de ses regards lumineux, de son charme fou, et je n'aurais pas pu écrire le rôle pour quelqu'un d'autre.
Jean-Loup Dabadi a marqué la culture populaire des années 70-80, mais il n'a jamais lâché l'écriture. Il venait de terminer l'adaptation pour le cinéma d'un roman de Georges Simenon, Les Volets Verts.
Ce soir, nous sommes septembre et j'ai fermé ma chambre. Le soleil n'y entrera plus. Tu ne m'aimes plus.
La chanson d'Hélène, chantée par Romy Schneider et Michel Piccoli dans Les choses de la vie de Claude Sautet, musique de Philippe Sard, parole de Jean-Loup Dabadi, bien sûr. Jean-Loup Dabadi, Les choses de sa vie, c'est une série d'entretiens à voix nue signée Jérôme Sandelars à retrouver sur franceculture.fr. Le temps de ce lundi 25 mai, de plus en plus ensoleillé au fil des heures. Les températures sont en hausse, comprises au meilleur de la journée entre 18 et 23 degrés près de la Manche et dans l'Est, comptez de 22 à 27 cet après-midi du nord jusqu'au sud-ouest, 25 à 29 près de la Méditerranée.